Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais remercier avant tout les organisateurs de m'avoir invité, de me permettre de vous présenter ici une synthèse sur le combustible et le bois dans le désert oriental. Et j'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour cette dernière présentation. L'approvisionnement en combustible et en matières ligneuses constitue un enjeu majeur dans le désert oriental égyptien en raison de la rareté des ressources boisées disponibles. Cette rareté, qui nous le verrons, est à nuancer, est directement liée au climat hyperaride en place depuis 6000 ans environ dans cette région. Cuire la nourriture, se chauffer, s'éclairer, chauffer l'eau, réduire et fondre le minerai, fabriquer des briques, des outils, les retravailler, construire, sont des actions quotidiennes ou épisodiques ayant eu cours dans le désert oriental d'Égypte à différents moments de l'histoire, engendrant l'utilisation régulière de matériaux inflammables présents dans le désert, sur place ou importés. Et l'hypothèse de travail qui vient rapidement à l'esprit au regard de ces nombreuses activités et que ces dernières ont dû considérablement affecter les ressources ligneuses disponibles et conduire à leur raréfaction accrue, déjà rendue effective du fait des conditions climatiques arides. Et cette hypothèse, tant pertinente qu'elle soit, n'en est pas moins difficile à valider. Et à l'heure actuelle, et à quelques exceptions près, les données disponibles ne permettent pas de répondre scientifiquement et précisément à cette question de l'évolution environnementale. Alors cette limite annoncée dès mon introduction permet de l'écarter habilement du propos qui va suivre et de rentrer désormais dans le vif du sujet qui concerne l'approvisionnement en ressources ligneuses aux époques ptolémaïques et romaines. Pour illustrer mon propos, je m'appuie sur les vestiges de charbon de bois et de bois trouvés au sein des différentes structures archéologiques fouillées, que l'on nomme donc vestiges anthracologiques pour les charbons de bois, xylologiques pour les bois, correspondant aux termes anglais anthracology et xylology, toutefois nettement moins utilisés dans cette langue que les termes plus explicites de charcoal and wood studies. Les charbons de bois font partie des éléments les plus retrouvés sur les sites archéologiques lorsque l'on prend la peine de tamiser finement le sédiment dans les niveaux domestiques, les structures artisanales, les couches d'incendie. Ce n'est pas le cas des éléments en bois qui, eux, se préservent à la faveur de conditions particulières, caractérisées par une activité microbienne réduite. Et comme l'a déjà souligné Marieke van der Veen juste avant moi, l'hyperaridité de la région a permis la conservation extraordinaire de cette matière organique, telles que les graines, les fruits, mais également le bois. Alors, ces bois sont toutefois conservés de façon hétérogène en fonction des sites étudiés, en raison des conditions locales plus ou moins humides qui s'observent d'un site à un autre. Et chaque type de source, charbon de bois ou bois, répond à des questions différentes. L'étude des charbons de bois permet avant tout de s'intéresser à la gestion du combustible, et l'étude des bois comprend une dimension technique liée à la fabrication de l'objet que je n'aborderai pas aujourd'hui. Les deux sources permettent d'appréhender les modalités d'approvisionnement en s'appuyant sur l'identification des essences utilisées, identification qui se fait par observation microscopique des éléments anatomiques du bois, dont je vous ai mis deux illustrations ici. Sur la gauche, la qualité n'est pas très bonne, mais il s'agit d'une coupe transversale d'une tige d'amaranthacée ou de chénopodiacée. Ce sont les petits buissons qu'on voit couramment dans le désert. Et puis à droite, une identification potentielle de bois de noyer. Alors voyons à présent les données disponibles. Les études sur les charbons de bois et les bois pour les époques ptolémaïques et romaines sont nettement moins développées que les études carpologiques qui ont été montrées donc, par Marieke van der Veen précédemment. La carte que vous avez vue donc, à de nombreuses reprises aujourd'hui indique en rouge les sites ayant fait l'objet ou faisant l'objet d'une étude xylologique et anthracologique. Et j'ai différencié en bleu les trois sites de carrière donc, pour lesquels une étude xylologique ou anthracologique a été faite, dont on a des données principalement pour les époques romaines et romaines tardives. Les deux ports de la mer Rouge, Myos Hormos et Berenike, Et les fortins et sites d'exploitation du désert intérieur, Samout, donc occupé à l'époque ptolémaïque, et Xéron Pélagos pour l'époque romaine. À côté de cette carte se trouve la bibliographie associée, à laquelle doivent s'ajouter 2-3 articles supplémentaires, mais qui reprennent en partie certaines des données. Donc les principales références se trouvent ici. 3 personnes ont beaucoup travaillé sur ces types de vestiges et proposent des données publiées. Caroline Vermeeren à Berenike et les sites satellites, dont les travaux sont publiés dans les rapports annuels de fouilles de Berenike de 1998, 1999 et 2000. Et Marieke van der Veen, qui a travaillé à Kusser el Kadim, donc Mias Hormos, Mons Claudianus et Mons Porphyrites, et dont les travaux se trouvent publiés dans plusieurs chapitres de livres et monographies. Julian Whitewatt propose également plusieurs études publiées plus spécifiquement sur les éléments de bateaux trouvés à Berenike et les techniques de construction. Claire Newton a mené une étude en 2005 à Umbalad, étude qui est pour l'instant inédite. Et je travaille depuis 2012 sur 2 sites, le fortin romain de Xéron, dont les premiers résultats sont sous presse, et le district de Samout, qui fait l'objet d'une étude en cours. La plupart des données disponibles concernent l'époque romaine et romaine tardive des 1er et 3e siècles après Jésus-Christ. À ça s'ajoutent quelques échantillons des 4e et 5e siècles à Mons Porphyrites et des données conséquentes pour l'occupation médiévale de Kusser el Kadim, dont vous avez entendu parler juste avant. Quelques données concernent l'époque ptolémaïque de Berenike et les analyses à venir sur le site de Samout permettront de développer nettement le corpus pour cette période. Comme je l'ai annoncé au début, je me concentre sur les périodes ptolémaïques et romaines. Ce tableau présente quelques données chiffrées pour ces périodes et pour chacun des sites dont je viens de vous parler, en indiquant donc pour les éléments en bois le nombre d'échantillons uniquement, en sachant que généralement un échantillon correspond à un seul artefact, et pour les données anthracologiques, donc sur la gauche, le nombre d'échantillons, dont la plupart correspondent à des volumes de sédiments tamisés, et le nombre de fragments étudiés. Alors vous voyez que la plupart des sites présentent à la fois des données anthracologiques et xylologiques, mais certaines données sont manquantes. C'est par exemple le cas de Berenike, où le nombre de fragments est absent et les calculs se sont faits uniquement sur le nombre d'occurrences par échantillon. Ou à Mons Claudianus, où les bois ont bien été étudiés, mais les identifications n'ont pas été réalisées. Les données de Samout, comme vous le voyez, ne peuvent pas être chiffrées pour l'instant, car l'étude commence tout juste, ou devrait commencer rapidement, et celles de Xéron et d'Umbalad sont pour l'instant incomplètes. Donc, 2 limites méthodologiques influencent considérablement les résultats que je vous présente à présent, et qui sont d'une part le faible nombre général de données et la répartition hétérogène de ces données entre les sites. En dépit de ces éléments, je vous propose néanmoins une présentation quantitative de ces résultats. Alors, voici une liste un petit peu austère, mais qui donc vous montre l'ensemble des taxons retrouvés à la fois sur les charbons de bois et les bois. Nous avons 71 taxons, donc 71 entités végétales identifiées selon différentes précisions taxinomiques et qui sont donc représentées ici sous forme de liste. En bleu, les taxons représentés sous forme de charbon de bois et en orange, les taxons représentés sous forme de bois. Le tout classé par ordre décroissant d'occurrence en fonction du nombre de restes. La précision taxinomique des identifications dépend de l'état de conservation du charbon de bois ou du bois, de sa taille, mais également de la diversité qui s'exprime au sein d'un groupe. Et cette identification peut être faite au niveau de la famille. Je vous ai montré tout à l'heure une tige de Chénopodiacée. Elle est souvent faite au niveau du genre, par exemple l'acacia ou du groupe de genre, les chênes à feuillage caduc. Et plus rarement au niveau de l'espèce, sauf lorsque les critères d'identification sont assez précis pour proposer une identification spécifique. Et cela est notamment le cas d'un type d'acacia, l'acacia du Nil, ou certains capriers sauvages qu'on peut identifier à l'espèce. Sur cet ensemble de taxons, 41 sont utilisés pour la fabrication d'objets et de matériaux de construction, qui sont donc préservés sous forme desséchée. 59 taxons sont représentés par les charbons de bois, donc a priori plutôt en lien avec une utilisation combustible. Et 23 taxons sont trouvés en commun sous forme de bois ou de charbon de bois. Alors, si on essaie maintenant de regarder dans le détail ces résultats en fonction des provenances dont pourraient être issus ces taxons, provenances que l'on déduit de l'écologie et de l'histoire de la plante durant les époques ptolémaïques et romaines, donc on peut commencer avec les taxons qui poussent localement. Les mieux représentés parmi ces taxons locaux sont les acacias, dont un grand groupe, donc c'est la première catégorie, comprend des acacias indifférenciés, donc ils peuvent comprendre différentes espèces. Parmi ces acacias, une espèce identifiable, c'est l'acacia tortillis, dont on a une image ici. Et alors je précise qu'à chaque fois j'ai mis le nom latin, parfois le nom arabe quand il était connu, et vous avez la traduction en anglais ou en français quand elle est disponible. Donc les acacias tortillis sont assez bien représentés. On trouve également les mangroves en bonne place, des tamaris et parmi les plantes présentes également sous forme d'arbres, on trouve d'autres taxons, comme l'arbre à benne, Moringa peregrina, qui se trouve ici, d'autres types de mangroves, ou le zizifus, qui est le jujubier local. Mais ce qu'on observe, c'est que la plupart de ces taxons correspondent à des taxons arbustifs. Et alors, on retrouve certains de ces taxons locaux qui sont utilisés pour la fabrication d'objets. J'en donne ici quelques exemples. Un allume-feu trouvé sur le site de Xeron Pédagos est donc réalisé avec un buisson local, dont je vous donne ici le nom latin et le nom arabe. Un bol réalisé en bois de tamaris, qui est un objet qu'on trouve de façon récurrente sur plusieurs sites du désert, et un stylet en acacia. En ce qui concerne les taxons nilotiques, donc, qui ont pu pousser dans la vallée du Nil ou dans les oasis du désert occidental, vous voyez que la liste est plus courte. Alors, on retrouve un acacia, l'acacia nilotica, dont vous avez une représentation ici, qui est assez bien représentée sous forme de charbon de bois. Les tiges de roseau, en deuxième position, qui représentent une petite partie de l'assemblage, et le palmier dattier est assez peu représenté. Et vous notez que ces essences sont pratiquement uniquement présentes sous forme de charbon de bois. Donc en bleu, donc plutôt destiné à l'utilisation combustible et que peu d'objets ou de matériaux de construction en bois semblent venir directement de la vallée du Nil ou des oasis. Et nous avons donc là une image concrète de l'importation depuis la vallée du Nil d'éléments combustibles qui concernent principalement donc l'acacia nilotica et nous reviendrons sur ce point par la suite. Un grand nombre de taxons correspond à des essences typiques du pourtour méditerranéen et des zones plus septentrionales de l'Europe, voire même du Moyen-Orient. J'ai tout regroupé ici car je ne compte pas discuter en détail de cette liste et parce que beaucoup de ces taxons ont une répartition écologique trop vaste pour les assigner à une origine plus précise. Alors certains sont cependant bien représentatifs de l'espace méditerranéen, comme le groupe des pindalets, pins maritimes, qu'on trouve en deuxième position, le premier groupe étant représenté par les pins indifférenciés. On trouve également les mentions de chênes verts, qui se trouvent particulièrement dans l'espace méditerranéen, ici, en petite position. Et d'autres taxons ne poussent que dans les régions plus tempérées, comme le groupe des pins sylvestres et pins noirs, donc on trouve ici. Beaucoup correspondent à des objets manufacturés ou éléments de construction, comme ces deux exemples le montrent, une planche de genévrier trouvée sur le site de Xeron et un peigne en buis trouvée sur le site de Kousser Al-Kadim. Et ce site, donc étudié par Marieke van der Wien, a révélé plusieurs exemples de ces peignes en buis, et le buis semble être une espèce choisie préférentiellement pour ce type d'objet. Et c'est quelque chose qu'on retrouve par ailleurs dans l'ensemble du bassin méditerranéen et les régions voisines. Donc enfin, 8 taxons sont des bois exotiques qui sont originaires probablement pour la plupart du sud-est de l'Asie, notamment le teck, donc en première position, qui est natif du sous-continent indien, connu pour son bois dur, durable, et dont on a une représentation ici sous la forme d'un objet trouvé à Berenike, étudié par Caroline Vermeeren. On trouve également une mention de bambou, donc on a là une mention directe d'une provenance indienne. On ne peut pas exclure que certains taxons proviennent d'Afrique tropicale, comme ces éléments de bouchon identifiés à Berenike et dont l'identification comprend deux espèces qui peuvent très bien pousser aussi bien en Inde qu'en Afrique tropicale. Alors, vous notez sur cette diapositive, mais également sur la précédente, que certains taxons sont représentés aussi bien sous forme de bois manufacturé que sous forme brûlée. Et si l'importation de matières combustibles depuis la vallée du Nil est tout à fait concevable, on l'a vu précédemment, on a un peu plus de mal à imaginer que le bois de feu pouvait être importé depuis l'Inde ou la Méditerranée. Et donc, ce qui est proposé ici, c'est que les charbons de bois retrouvés correspondent, dans ces cas précis, à une réutilisation d'objets ou d'éléments de construction arrivés en fin de vie. Afin de résumer sous forme de graphique ce qui vient d'être dit, voici deux diagrammes en bâton représentant le nombre de taxons par grande zone de provenance, en jaune les taxons supposés locaux, en bleu les taxons venant de la vallée du Nil ou des oasis du désert occidental, en vert les taxons méditerranéens et européens, et en rouge les taxons indiens ou africains. Et le graphique du haut est fait sur les charbons de bois, le graphique du bas sur les bois. Et donc, comme je viens de le dire, on voit que les essences exotiques indiennes ou africaines ne sont présentes uniquement que sur les ports de Myos Hormos et Berenike, donc que ce soit aussi bien parmi les charbons de bois que parmi les bois. Ce qu'on note également sur ces graphiques, c'est que le bois local, donc représenté par les charbons... Pour les charbons de bois, le bois local représente plus de la moitié des assemblages. Et d'un point de vue méthodologique, on note que la variation du nombre de taxons représentés par site dépend largement du nombre d'échantillons étudiés. Et c'est surtout flagrant pour le site de Xéron. Et donc cette limite méthodologique liée au faible nombre de fragments est vraiment à prendre en compte pour l'interprétation. Bien que d'autres facteurs, comme les contextes écologiques et archéologiques, peuvent rentrer en compte dans cette dispersion. Et si on effectue une analyse factorielle des correspondances sur l'ensemble des sites et des taxons présents sous forme de charbon de bois, on obtient une assez bonne discrimination géographique et fonctionnelle, où se distinguent donc les sites de bord de côte, où on retrouve principalement les bois de mangrove et le teck, donc en réutilisation, et les sites où les acacias constituent une ressource privilégiée, Acacia nilotica, donc, qui regroupe Mons Claudianus et Mons Porphyrites, et Umelbalad et Xéron, qui se retrouvent regroupés ici par l'identification d'acacia. Alors, je profite de cette diapositive pour introduire le seul élément de ma présentation qui fait référence à l'évolution de la végétation dans la région, à savoir l'évolution des mangroves au cours du temps. Comme vous pouvez le constater, le bois de mangrove est largement utilisé sur les deux sites côtiers durant l'Antiquité. Et les données pour l'époque médiévale, à Kousser El-Kadim, montrent que ces formations de mangroves sont nettement moins représentées. Et actuellement, elles sont très restreintes et limitées à quelques zones préservées de la côte. Et cette diminution au cours du temps des formations de mangroves est un des seuls éléments anthracologiques à notre disposition pour l'instant, montrant la raréfaction des ressources du fait de l'activité anthropique. Alors, un autre point important sur lequel je souhaite à présent m'arrêter est celui de la sélection potentielle des essences combustibles. Les contextes archéologiques étudiés jusqu'à présent sont principalement des contextes domestiques et peu de contextes spécifiques correspondant à une activité artisanale précise sont à disposition. Il est néanmoins possible de mettre en évidence des tendances et c'est ce que je tente de vous représenter ici en comparant pour chaque site les assemblages correspondant à des couches d'occupation et de rejet a priori domestiques, donc indiquées par le label HOC sur ce graphique, et les contextes qui correspondent plutôt à des rejets d'activités non domestiques. Les rejets d'une forge à Umbalad, un contexte industriel indéterminé sur un des sites satellites de Mons Porphyrites, un probable atelier de fabrication de briques à Berenike et des rejets de foyers de bain à Xeron. Alors cet alignement de données est vraiment à considérer avec prudence car elle couvre plusieurs siècles d'occupation et met en parallèle des éléments qui ne sont pas de la même période, je le précise pour la suite, notamment le rejet d'atelier du satellite de Mons Porphyrites qui date du 4e et 5e siècle et l'atelier de fabrication de briques à Berenike qui est d'époque ptolémaïque. Alors, une fois ce biais entendu et assumé, on se rend compte que les contextes artisanaux présentent tous un nombre de taxons plus réduit que les contextes domestiques, pour lesquels la variabilité est plus élevée. Autrement dit, cela met en évidence une tendance à la sélection du combustible pour les activités spécialisées, majoritairement acacia et bois de mangrove, tandis que le bois de feu domestique est composé d'un panel plus large de taxons ligneux, et essentiellement d'origine locale. Et cette pratique fait largement écho aux pratiques modernes, comme l'a notamment décrit Joseph Hobbs dans son livre consacré à la tribu bédouine des Mahaza, vivant dans la partie septentrionale du désert oriental, et dont je vous ai mis une phrase ici, qui montre l'utilisation de ressources désertiques variées et locales comme combustible quotidien. Alors, pour finir sur cette diapositive, on note que les rejets de bains, les rejets de foyers des bains de Xeron ne suivent pas vraiment la tendance sélective mise en évidence dans d'autres contextes. Et à cela s'ajoutent des éléments qui n'apparaissent pas sur ce diagramme, qui sont qu'aux côtés de ces vestiges de bois brûlé trouvés dans ces bains, ont été retrouvées des dizaines de crottes de dromadaires brûlées, ce qui suggère d'une part qu'on faisait feu de tout bois et de toute crotte pour chauffer ces bains, à l'instar des contextes domestiques et également d'autres bains étudiés en Égypte et au Proche-Orient, et d'autre part que le fumier représentait une ressource combustible importante. Et c'est une chose qu'on observe aussi bien donc, dans les bains qu'en contexte domestique, mais également pour des utilisations plus ciblées. Et je donne à titre d'exemple la découverte récente sur le site ptolémaïque de Samout de fragments de scories mélangés à du fumier, illustrant probablement l'utilisation de ce type de combustible alternatif dans la chaîne opératoire de traitement des minerais. Alors, une question qui découle également de ce qu'on vient de dire est celle du charbon de bois fabriqué. Une des grandes limites de l'analyse anthracologique est qu'il est difficile de séparer les charbons de bois qui résultent de la combustion de bois sec ou vert des charbons qui ont été intentionnellement fabriqués. Et d'ailleurs, on utilise le même terme, ce qui rend l'explication pas forcément très limpide. Donc pourtant, certaines pratiques antiques qui se sont déroulées dans le désert oriental ont nécessité l'utilisation de charbon, en particulier celles liées à la transformation de minerais, de fer et autres activités métallurgiques dont on a les traces archéologiques sur plusieurs sites. Et vous en avez entendu plusieurs exemples aujourd'hui. En effet, le charbon de bois, quelle que soit l'essence de bois dont il est issu, a un pouvoir calorifique bien supérieur à celui du bois. Il permet d'atteindre de hautes températures. Et il est de plus léger, facile à transporter, produit moins de fumée et sa combustion se contrôle plus facilement. Donc il a un certain nombre d'avantages et on comprend tout à fait que les habitants du désert oriental s'en soient servis. Plusieurs ostracas du Mons Claudianus documentent l'importation de charbon depuis la vallée du Nil. Et je remercie vivement Adam Bulot-Jacobsen pour m'en avoir fourni rapidement les références. Ce système d'approvisionnement fait écho aux observations de Marieke van der Veen sur les charbons de bois du Mons Claudianus et de Mons Porphyrites, qui prennent en compte trois critères. La proportion dans les assemblages de fragments de taille moyenne à grande, entre 5 et 30 mm, la présence ou non de brindilles dans ces assemblages et la consistance du charbon, de friable à très dur. Et ce qu'on note, c'est que les deux acacias donc, qui ont été utilisés pour cette petite analyse ont en général plus de fragments de taille moyenne à grande, plus de fragments de consistance dure et moins de brindilles que les deux autres essences représentées ici, qui correspondent probablement à une utilisation de bois sec ouvert comme combustible. Tandis qu'on peut suggérer que pour ces deux essences d'acacia, ces données correspondent à du charbon de bois fabriqué. Ce qui est intéressant, c'est que l'acacia nilotica, donc l'acacia du Nil, semble donc être utilisée pour la fabrication de charbon. Et cet arbre ne poussant pas dans le désert, mais dans la vallée du Nil ou les oasis, nous avons donc là une preuve directe de l'importation de charbon depuis la vallée, rejoignant les conclusions données par les ostracas. L'utilisation de ces critères anatomiques d'identification est toutefois à nuancer, car les avancées récentes en anthracologie montrent qu'un certain nombre d'autres facteurs peuvent expliquer la taille des charbons et sa dureté, et il faudrait pouvoir tester la validité de ces arguments avant de les appliquer à d'autres assemblages anthracologiques, et prendre en compte également plus de critères en compte, comme le calcul des diamètres ou les taux de vitrification. Alors, si les données pour l'époque romaine au Mons Claudianus montrent bien l'importation de charbon fabriqué dans la vallée du Nil, les données en cours d'acquisition pour l'époque ptolémaïque, notamment à Samout, suggèrent l'existence de charbonnage local. L'élément le plus probant est un ostracone inédit, daté du courant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, trouvé à Bir Samout, et dont le contenu m'a été gracieusement délivré par Hélène Cuvigny, que je remercie vivement. Cet ostracone, qui a déjà été mentionné ce matin par Hélène, mentionne la possible livraison de bois aux charbonniers, suggérant ainsi la présence d'une activité de charbonnage locale. Par ailleurs, sur le site voisin de Samout Nord, pour une époque immédiatement antérieure, probablement fin IVe siècle avant Jésus-Christ, une réserve de charbon a été trouvée, et les premières identifications faites sur les fragments montre qu'il s'agit de bois d'acacia de type tortilis, que l'on peut trouver localement, et non l'acacia de type nilotica, donc venant de la vallée du Nil. D'autre part, on sait par les récits ethnographiques que le charbonnage dans le désert était une pratique bédouine régulière, jusqu'à récemment. Et d'ailleurs, on pouvait encore l'observer cette année, non loin de Samout. Deux techniques de charbonnage sont décrites dans ces récits ethnographiques. La technique de la kamina, qui dessine une fabrication de charbon de bois en meule, comme on le trouve couramment dans d'autres régions. Et la technique ferbacas, qui désigne une pratique moins rigoureuse, probablement à usage domestique, où le charbon est fabriqué en fonction des besoins à l'air libre. Tandis que la technique en meule permet une cuisson en réduction. Donc la production locale de charbon dans l'Antiquité, à Samout, mais peut-être également ailleurs, doit donc sérieusement être envisagée. Et il faudrait peut-être effectivement se demander si les charbons d'acacia de type tortilis, trouvés au Mons Claudianus et au Mons Porphyrites, dont les caractéristiques anatomiques laissent à penser qu'il s'agit bien de charbon fabriqué, pourraient provenir d'un charbonnage local. Donc, en conclusion, l'étude des charbons de bois et des bois montre des systèmes d'approvisionnement complexes, mettant en œuvre aussi bien les essences locales que des bois ou charbons de bois importés. La répartition des taxons souligne une bonne discrimination géographique et fonctionnelle entre les sites, au même titre que l'analyse des graines et des fruits, et met également en évidence une tendance sélective de certaines essences comme combustible ou comme matériaux de façonnage. Le corpus disponible est encore cependant trop réduit pour appréhender dans la précision ces modalités de sélection, surtout celles concernant le combustible. Et nous espérons que les analyses à venir, et notamment sur les sites de Xeron et de Samout, apporteront de nouvelles données, permettant notamment d'explorer l'hypothèse de charbonnage local et ses éventuelles conséquences environnementales. En dernier lieu, je souhaite remercier les personnes dont j'ai utilisé les données pour cette présentation, plus particulièrement les archéobotanistes Claire Newton, Marieke van der Veen et Caroline Vermuren, Hélène Cuvigny et Adam Bulo-Jacobsen pour les mentions écrites, et les fournisseurs de charbon réguliers, Jean-Pierre Brun, Bérangère Redon et Thomas Fauché. Je vous remercie.